Lors de notre précédente conférence, nous avons rappelé les immenses mérites de la langue arabe. Nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa parfaite sagesse, l'a choisi pour révéler son dernier livre et que cette langue constitue la clé de la compréhension du Coran, de la Sunna et de l'ensemble des sciences religieuses. Mais connaître la valeur d'une chose ne suffit pas à la préserver. Toute faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde peut être honorée comme elle peut être négligée. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرغ. Prophète صلى الله عليه وسلم nous a bien dit, il est deux bienfaits, deux grâces d'Allah tabaraka wa ta'ala à propos desquels les gens se montrent négligents, la santé et le temps libre. On voit donc que les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, les faveurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à ses serviteurs qui sont innombrables, elles peuvent être honorées lorsqu'elles sont utilisées dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, comme elles peuvent être négligées, ne serait-ce qu'en n'en reconnaissant pas la valeur et en ne se montrant pas reconnaissant. C'est pourquoi il est indispensable de connaître les causes qui conduisent à l'affaiblissement de la langue arabe afin de pouvoir les combattre avant qu'il ne soit trop tard. Notre sujet aujourd'hui est donc quels sont les dangers qui menacent la langue arabe? Quelles sont les conséquences de son abandon sur la religion des musulmans? Et comment lui redonner la place qu'elle mérite dans nos vies? Ces questions ne sont nullement secondaires. Lorsqu'un peuple abandonne sa langue, il perd une partie de son histoire, de sa mémoire et même de son identité. Mais lorsque les musulmans délaissent la langue dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé son livre et dans laquelle son messager sallallahu alayhi wa sallam a transmis la sunna, les conséquences dépassent largement le simple domaine culturel. Elles touchent directement la compréhension de la religion. C'est pourquoi les savants de cette communauté ont toujours accordé cette place imminente et importante à cette question. Il est rapporté que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait « Ta'allamu l'arabiyya fa'innaha min dinikum » « Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. » Cette parole, elle mérite d'être méditée. Étant donné que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ne rattache pas ici la langue arabe à une origine ethnique, ni à une quelconque supériorité d'un peuple sur un autre. Il rappelle simplement que cette langue est le moyen par lequel le musulman accède plus directement au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'héritage laissé par les savants de l'islam. La noblesse de la langue arabe ne provient donc pas des arabes eux-mêmes. Elle provient du choix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Notre Seigneur Azza wa Jal dit إِنَّ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah Azza wa Jal dit dans le verset, nous l'avons fait descendre en un Coran arabe afin que vous raisonniez. Et il dit également بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ, en une langue arabe claire. Ces versets montrent que ce choix relève de la sagesse parfaite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah Azza wa Jal a choisi cette langue pour porter la dernière révélation destinée à l'humanité entière, le croyant ne peut pas la considérer comme une simple langue parmi d'autres. Cela ne signifie évidemment pas que l'islam décourage l'apprentissage des autres langues. Bien au contraire. Toute langue qui permet de servir la religion ou d'apporter un bien aux musulmans est une science bénéfique. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Comme Allah Azzawajal nous dit dans l'autre verset, nous n'avons pas envoyé de messagers si ce n'est dans la langue de leur peuple afin qu'ils leur clarifient. Donc bien évidemment que l'apprentissage de toute langue qui permet de servir la religion ou d'apporter un bien aux musulmans est une science bénéfique. Cependant, aucune de ces langues ne peut occuper dans le cœur du croyant la place de la langue du Coran. Avant même l'islam, les Arabes étaient connus pour leur extraordinaire maîtrise de la parole. La poésie occupait une place centrale dans leur société et les plus éloquents étaient admirés de tous. Et c'est au sein de ce peuple qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoya son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne leur présenta ni un poème, ni un discours humain. Il leur présenta le Coran. Donc les maîtres de l'éloquence, ces poètes, comprirent immédiatement qu'ils étaient en présence d'une parole qui dépassait tout ce qu'un être humain pouvait produire. Cette reconnaissance fut elle-même une preuve de la véracité de la révélation. Cette faveur implique cependant une responsabilité, étant donné qu'une langue ne disparaît pas uniquement parce que ses ennemis la combattent. Elle disparaît surtout lorsque ceux qui devraient la préserver cessent de lui accorder la place qu'elle mérite. Et c'est précisément ce que nous observons aujourd'hui. Le premier danger qui menace la langue arabe n'est pas l'hostilité de ses adversaires, c'est le renversement progressif de notre propre priorité. Nos priorités ne sont plus tournées vers l'apprentissage de la langue arabe. Nous délaissons la langue arabe. Donc le premier danger qui menace aujourd'hui la langue arabe est sans doute le plus discret, précisément parce qu'il est devenu habituel. Il ne s'agit pas de cette hostilité ouverte envers la langue du Coran, mais d'un renversement progressif de nos priorités. Autrefois, celui qui désirait approfondir son savoir religieux comprenait naturellement que l'apprentissage de la langue arabe faisait partie du chemin vers la science. Cette langue était la porte d'entrée vers le livre d'Allah Azza wa Jal, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et l'immense héritage laissé par les savants de cette communauté. Aujourd'hui, la situation est souvent inversée. D'ailleurs, on le voit dans de nombreuses familles musulmanes, l'apprentissage des langues étrangères occupe une place essentielle. C'est un signe de réussite. Les parents recherchent les meilleurs établissements, les meilleurs enseignants et les méthodes les plus efficaces afin que leurs enfants maîtrisent plusieurs langues. Convaincus à juste titre que cela favorisera leur réussite scolaire et professionnelle. En soi, cela n'a rien de répréhensible, étant donné que l'islam n'a jamais interdit l'apprentissage des langues étrangères. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé certains compagnons connus pour avoir des qualités précises. On peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs demandé à Zayd ibn Thabit radiallahu anhu d'apprendre la langue hébreu afin de lire leur correspondance et d'y répondre. Donc le problème ne réside pas dans l'étude des autres langues. Le véritable problème apparaît lorsque la langue arabe devient la seule que l'on considère comme facultative. Combien de parents s'inquiètent lorsque leur enfant éprouve des difficultés en anglais, en français, en mathématiques, à l'école de manière générale? Mais ils restent indifférents lorsqu'ils peinent à lire correctement quelques versets du Coran, malgré qu'ils sont envoyés tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis à la mosquée pour apprendre la langue arabe, pendant des années. Mais lorsque l'enfant rentre à la maison, les parents ne fournissent aucun effort avec les enfants pour inculquer cette langue au foyer. Comme si c'était une activité périscolaire, comme s'il allait faire du sport. Il revient, il n'a pas besoin de s'entraîner. En revanche, pour les affaires mondaines, pour l'école, les parents sont vigilants, ils sont derrière les enfants, ils font les devoirs avec eux, ils sont assidus, ils attendent des résultats. Combien de musulmans consacrent plusieurs années à apprendre une langue qui ne leur permettra de réussir dans cette vie, tout en pensant qu'il est trop difficile ou trop tard pour apprendre celle qui leur permettra de mieux comprendre la parole de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il ne s'agit pas d'opposer les sciences religieuses aux sciences utiles de ce bas monde. L'islam encourage toute science profitable, on l'a dit et on le répète. Mais l'islam nous enseigne aussi à donner à chaque chose la place qui lui revient, dans l'ordre de priorité. Or, il est difficile de comprendre qu'un musulman considère comme indispensable la langue qui lui permet de communiquer avec les créatures, tout en jugeant secondaire celle qui lui permet de mieux comprendre la parole de son créateur. Cette inversion des priorités s'est progressivement installée au point de devenir normale aux yeux de beaucoup de musulmans. Au point qu'il n'est plus rare de rencontrer des jeunes capables de poursuivre des études supérieures dans une langue étrangère, tout en ayant des difficultés à comprendre les invocations qu'ils récitent chaque jour ou les sourates qu'ils entendent dans leurs prières. ce constat ne doit pas nous conduire à blâmer les personnes, mais à nous interroger sur nos choix, sur nos priorités. Si ce renversement des priorités ne concernait que les écoles ou les universités, la situation serait déjà préoccupante. Mais la réalité est plus profonde. C'est au sein même des foyers que cette évolution s'est progressivement installée. Or, la famille est la première école de l'enfant, comme on dit. Avant même d'apprendre à lire ou à écrire, il apprend à parler. Il découvre le monde à travers les mots qu'il entend chaque jour, les expressions employées par ses parents et la manière dont il nomme les choses. C'est ainsi que se construit son rapport à la langue. Pendant longtemps, ces transmissions s'effectuaient naturellement. Les parents parlaient leur langue à leurs enfants. Les enfants grandissaient avec elle et la transmettaient ensuite à leur tour. Personne ne se demandait s'il fallait préserver cette langue. Elle faisait tout simplement partie de la vie. Aujourd'hui, cette transmission s'affaiblit dans de nombreux foyers. Les langues se mélangent, le vocabulaire s'appauvrit et les enfants grandissent dans un environnement où il devient normal d'abandonner certains mots au profit d'expressions étrangères. Si telle est déjà la situation de la langue maternelle, que dire alors de la langue du Coran ? Car l'arabe classique ne s'acquiert pas naturellement. Au quotidien, on parle le dialecte. Donc l'apprentissage de l'arabe classique demande un effort, de la patience et une fréquentation régulière du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et des ouvrages des savants. Comment nos enfants pourraient-ils aimer cette langue s'ils ne voient jamais leurs parents lui accorder de l'importance ? Les enfants apprennent moins par les discours que par l'exemple. Lorsqu'ils voient leurs parents lire le Coran, chercher à comprendre son sens, apprendre quelques mots d'arabe, même avec difficulté, ou assister à des cours de sciences, ils comprennent naturellement que cette langue possède une valeur particulière. À l'inverse, si toute notre attention est tournée vers les langues qui permettent de réussir dans ce monde, tandis que l'arabe est constamment repoussé à plus tard, ils finiront eux aussi par penser qu'il s'agit d'une langue et d'une science secondaire. Voilà pourquoi la responsabilité des parents est immense. Nous nous préoccupons à juste titre de nourrir nos enfants, de les vêtir, de leur offrir une bonne éducation et de préparer leur avenir. Et tout cela est légitime. Mais il existe un héritage plus précieux encore. Le plus bel héritage qu'un père ou une mère puisse laisser à ses enfants est une foi authentique, un attachement au Coran et l'amour de la langue dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé. Cette transmission ne demande pas que tous les parents deviennent des spécialistes de la langue arabe, mais elle commence par des petites habitudes constantes. Réciter le Coran en famille, expliquer le sens de quelques mots, apprendre progressivement les invocations prophétiques ou montrer par son propre comportement que la langue du Coran mérite une place particulière dans notre vie. Toutefois, si cette mission disparaît des foyers, les écoles auront bien du mal à la remplacer. Et si les écoles ne peuvent y parvenir, les regards se tourneront naturellement vers les mosquées. Or, c'est précisément à ce niveau qu'apparaît une autre difficulté tout aussi préoccupante. Car si les foyers sont la première école de l'enfant, la mosquée est, depuis les débuts de l'islam, la première école de la communauté. C'est dans les mosquées que le Coran était enseigné, que la sunna était transmise et que les compagnons formaient leurs élèves avant que ceux-ci ne deviennent à leur tour les enseignants des générations suivantes. Les plus grands savants de cette communauté ont grandi dans les mosquées. Ils y ont appris le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi les outils indispensables à leur compréhension, parmi lesquels figurait naturellement la langue arabe. Les premières générations avaient parfaitement compris qu'il était impossible de comprendre correctement un texte sans connaître la langue dans laquelle il a été révélé. C'est pourquoi les sciences de la langue occupaient une place essentielle dans la formation des étudiants. Que ce soit al-nahw, la grammaire, al-sarf, la morphologie, le vocabulaire, les règles de la langue. Tout cela n'était pas étudié pour elles-mêmes. Elles étaient des moyens permettant de comprendre plus justement la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, il faut malheureusement reconnaître que cette exigence s'est affaiblie dans bien des endroits. Il arrive d'entendre des versets récités dans les mosquées, dans la prière, avec des erreurs de vocalisation. Des hadiths prononcés de manière approximative ou des paroles de savants citées sans que leur formulation arabe soit réellement comprise. Il ne s'agit pas de rechercher la faute chez les enseignants, ni de prétendre qu'ils devraient être exempts de toute erreur. Personne n'est infaillible. Et tout étudiant demeure un apprenant jusqu'à son dernier souffle. Mais ce qui doit nous interpeller est autre chose. Autrefois, lorsqu'une erreur était commise dans la lecture d'un verset, plusieurs personnes présentes étaient capables de la corriger immédiatement. Aujourd'hui, dès lors que l'imam récite d'autres sourates que celles connues de tous, les petites sourates de Juz'amma, quelques versets de sourate Al-Kahf, quelques versets de sourate Al-Baqarah, ces fautes passent parfois inaperçues. Simplement parce que le niveau général s'est affaibli et plus personne n'est en mesure de pouvoir corriger l'imam. Ce constat n'a pas pour but de décourager, mais de nous réveiller. Lorsqu'une communauté perd progressivement la maîtrise de la langue de la révélation, elle perd en même temps une partie des outils qui lui permettent de comprendre correctement sa religion. C'est d'ailleurs pour cette raison que les savants ont toujours insisté sur une règle fondamentale. La science religieuse ne s'acquiert pas seulement par la lecture, mais auprès des gens de science, avec méthode, progressivement et en maîtrisant les instruments qui permettent de comprendre les textes. La langue arabe, elle fait partie justement de ces instruments. Elle n'est pas une fin en soi. Elle demeure l'une des plus grandes clés de la compréhension du Coran et de la Sunna, mais elle ne doit pas être une finalité. Toutefois, plus cette clé est délaissée, plus les risques d'erreur augmentent. Les bibliothèques peuvent demeurer intactes, les manuscrits parfaitement conservés et les ouvrages largement diffusés. Ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui, les maisons d'édition. Mais si les hommes perdent la langue, qui en ouvre l'accès, cet héritage devient pratiquement inaccessible. Voilà pourquoi cette question ne relève ni du nationalisme, ni d'un attachement aveugle à une culture. Les imams n'ont jamais appelé à apprendre l'arabe parce qu'il serait la langue d'un peuple, mais parce qu'il est la langue de la révélation. C'est là toute la différence. Et après avoir identifié les causes qui ont conduit à cet affaiblissement, il nous reste maintenant à mesurer ses conséquences. Car l'abandon de la langue arabe ne prive pas seulement le musulman d'une science supplémentaire. Il affecte progressivement sa compréhension du Coran, son attachement à la sunna et plus largement sa relation avec sa religion. Beaucoup de musulmans pensent qu'il ne s'agit finalement que d'une question de langue ou de culture. Ils se disent, il existe des traductions du Coran, des livres dans ma langue et de nombreuses conférences. Pourquoi apprendre la langue arabe? Cette réflexion peut même sembler raisonnable à première vue. Pourtant, elle repose sur une confusion qui est indispensable de dissiper. Personne ne conteste l'immense bienfait que représentent les traductions par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elles ont permis à des millions de personnes de découvrir l'islam et de profiter des travaux de savants. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser tous ceux qui ont consacré leur temps à traduire les ouvrages utiles à la communauté. Cependant, une traduction ne remplacera jamais le texte original. Non pas parce que le traducteur manquerait de compétences ou de sincérité, mais parce que toute traduction est par nature une interprétation. Le traducteur est contraint de choisir un terme, de retenir une nuance et de privilégier un sens parmi plusieurs. Or, la langue arabe, elle possède une richesse exceptionnelle. Un même mot peut parfois renfermer plusieurs significations exactes qui se complètent sans se contredire. On parle du même mot, on ne parle pas de synonyme. On parle du même mot, il peut parfois renfermer plusieurs significations, sans que ces significations se contredisent les unes les autres. C'est pourquoi les savants du tafsir ont souvent consacré plusieurs pages à expliquer un seul terme du Coran. La traduction est donc obligée de choisir. Le texte arabe, lui, conserve toute cette richesse. Voilà pourquoi les musulmans n'ont jamais considéré les traductions comme un substitut au Coran. Elles permettent d'en approcher le sens, mais elles ne remplacent jamais la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala telle qu'il l'a révélée. À mesure que le croyant progresse dans la langue arabe, il découvre justement cette profondeur. Des versets qu'il récitait depuis des années lui apparaissent sous un jour nouveau. Une expression révèle une nuance qu'il n'avait jamais perçue. Une simple particule grammaticale éclaire parfois tout un passage. Il comprend alors pourquoi les grands savants du tafsir consacraient tant d'efforts à expliquer les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran n'est pas simplement un livre que l'on récite. C'est un livre que l'on médite. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadakkara ulul albab » Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Remarquez comment le verset ne dit pas seulement afin qu'il le récite, mais plutôt afin qu'il médite ces versets. Toutefois, cette méditation devient plus profonde à mesure que le musulman comprend la langue dans laquelle Allah s'adresse à lui. Sans quoi, cela est impossible. Et c'est pourquoi les pieux prédécesseurs ne séparaient jamais l'étude de la langue arabe de l'étude du Coran. Chaque progrès dans la langue arabe ouvrait une nouvelle porte vers la compréhension de la révélation. Voilà la première conséquence de l'abandon de la langue arabe. Ce n'est pas simplement la perte d'une langue, c'est l'appauvrissement progressif de notre relation avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque cette relation s'affaiblit, une autre perte apparaît presque inévitablement. Le croyant s'éloigne peu à peu de l'immense héritage scientifique que cette communauté a reçu de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. L'abandon de la langue arabe entraîne aussi une seconde conséquence, tout aussi préoccupante. En s'éloignant de cette langue, le musulman s'éloigne progressivement de l'immense héritage scientifique qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé pour cette communauté. Depuis plus de 14 siècles, des générations de savants ont consacré leur vie à expliquer le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, à préserver la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, à distinguer les hadiths authentiques des hadiths faibles, à exposer les règles du fiqh, à défendre la croyance des gens de la sunna et à répondre aux ambiguïtés propagées à chaque époque. Le résultat de ces efforts est ainsi exceptionnel. Des milliers d'ouvrages nous sont parvenus. Commentaires du Coran, recueils de hadiths, livres de croyances, ouvrages de jurisprudence, dictionnaires, biographies, traités de la langue et bien d'autres disciplines qui constituent un patrimoine scientifique qu'aucune autre communauté ne possède avec une telle continuité. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, cet héritage a été conservé dans une langue demeurée stable au fil des siècles. Aujourd'hui encore, un étudiant peut ouvrir, justement comme on l'a dit, des ouvrages qui ont été rédigés il y a près de 1000 ans, et le lire dans la même langue. Voilà un immense bienfait qu'il est facile d'oublier. Pourtant, malgré cette richesse extraordinaire, on constate tristement que de nombreux musulmans sont aujourd'hui capables d'accéder à d'autres sciences, mais ne sont pas capables d'accéder directement à cet héritage. Le véritable problème est là, étant donné que les livres n'ont pas disparu. Les manuscrits sont toujours conservés. Les bibliothèques existent encore. Ce qui disparaît progressivement, c'est notre capacité à en tirer profit. Imaginez un homme qui hérite d'une bibliothèque remplie d'ouvrages d'une valeur inestimable et il n'a rien perdu de ses livres. Les livres sont là, parfaitement conservés. Mais cet homme ne sait pas lire. Peut-on dire qu'il profite réellement de son héritage ? En réalité, cet héritage existe toujours, mais il lui est devenu inaccessible. Il en va de même pour la langue arabe. Lorsque nous cessons de l'apprendre, nous ne perdons pas seulement la possibilité de mieux comprendre le Coran, nous nous coupons également de 14 siècles de science. Nous devenons dépendants de quelques traductions, de résumés ou de citations, alors que les développements des grands imams demeurent enfermés dans des ouvrages que nous ne sommes plus capables de consulter. C'est une perte immense. Car les savants ne nous ont pas seulement transmis des avis juridiques, ils nous ont aussi transmis une méthode, celle de comprendre les textes, de concilier les preuves, de répondre aux ambiguïtés et de raisonner à la lumière du Coran et de la Sunna. Une telle méthode ne s'acquiert pas en lisant quelques citations traduites. Elle se découvre progressivement au fil des études, à mesure que l'étudiant avance dans la connaissance de la langue arabe. L'histoire de cette communauté en apporte une preuve remarquable. Prenons l'exemple de l'imam Sibawayh, rahimahullah ta'ala. Il n'était pas arabe de naissance. C'est un originaire de Perse. Il est devenu pourtant la plus grande référence de la grammaire arabe. Plus de 12 siècles après sa rédaction, son ouvrage « El-Kitab » demeure une référence incontournable pour les spécialistes de la grammaire et de la morphologie. Voilà une leçon magnifique. L'homme auquel les Arabes eux-mêmes reviennent pour comprendre leur langue n'était pas issu de leur peuple. Il avait compris que la noblesse de cette langue ne résidait pas dans une origine ou une appartenance ethnique, mais dans le lien qu'elle entretient avec la révélation. Voilà pourquoi la langue arabe n'appartient pas aux seuls arabes. Chaque croyant qui l'apprend contribue, selon ses capacités et ses efforts, à préserver le dépôt qu'Allah tabaraka wa ta'ala a confié à cette communauté. Cependant, malgré l'importance de cette perte, une conséquence plus grave encore apparaît lorsque la langue arabe est délaissée. Car celui qui ne possède plus les outils nécessaires pour comprendre correctement les textes révélés s'expose inévitablement aux erreurs d'interprétation. Étant donné que lorsque ces erreurs se multiplient, elles peuvent conduire avec le temps à des déviations dans la croyance et dans la pratique. Donc l'abandon de la langue arabe n'éloigne pas seulement le musulman du Coran et de l'héritage scientifique de sa communauté. Il ouvre également la porte aux erreurs de compréhension qui, avec le temps, peuvent entraîner des déviations dans la croyance et dans la pratique. Cette conséquence, elle est parfaitement naturelle. Le Coran et la Sunna ont été révélés dans une langue précise, avec ses règles, ses expressions et ses usages. Celui qui ignore cette langue risque inévitablement de donner au texte un sens qu'il ne porte pas. Et c'est précisément pour cette raison que les premiers savants accordaient une si grande importance aux sciences de la langue. L'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, disait « Si l'on m'amène un homme qui interprète le livre d'Allah sans connaître la langue des Arabes, j'en ferai un exemple par une sévère réprimande. » Il faut méditer cette parole. Étant donné que l'imam Malik ne parlait pas ici d'un homme qui commettrait quelques fautes de grammaire, il parlait de celui qui prétend expliquer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala sans posséder les outils indispensables à sa compréhension. Parmi ces outils, il nous cita la langue arabe. Les premières générations avaient compris que les innovations ne naissent pas uniquement de mauvaises intentions. Bien souvent, elles trouvent leur origine dans une mauvaise compréhension des textes. Un mot est interprété selon son sens contemporain alors que les Arabes lui donnaient une autre signification. Une expression est sortie de son contexte. Une règle de la langue est négligée. Et peu à peu, une erreur d'interprétation devient une opinion, puis une croyance que l'on transmet aux autres. Voilà pourquoi il est important de porter notre regard sur la langue arabe. Lorsque l'on regarde les grands imams, ils réfutaient les innovations. Ils revenaient constamment au Coran, à la Sunna et à la langue arabe. Ils expliquaient le sens des mots. Ils rappelaient les usages des Arabes et montraient comment les compagnons comprenaient les textes révélés. Les premières générations savaient que lorsque la compréhension de la langue arabe est correcte, la compréhension de la révélation le devient également. Et cette réalité est plus actuelle que jamais. Étant donné qu'aujourd'hui, en quelques secondes, un verset ou un hadith peut être partagé sur les réseaux sociaux, accompagné d'une traduction approximative. Combien de polémiques naissent ainsi autour d'un mot dont les savants ont pourtant expliqué le sens depuis des siècles? Combien d'avis sont fondés sur une simple traduction alors que le texte arabe renferme des nuances qu'aucune traduction ne peut restituer entièrement? Tout cela devrait nous rendre humbles. Plus le musulman progresse dans la langue arabe, plus il mesure l'étendue de ce qu'il ignore. Il comprend alors pourquoi les grands imams passaient de longues années à apprendre avant d'enseigner, à écouter avant de parler et à maîtriser les outils de la science avant de tirer des conclusions. L'étude de la langue arabe, elle nécessite des efforts, de la patience et elle éduque le croyant à la prudence, à la rigueur et à l'humilité. Elle lui apprend à respecter les textes du Coran et de la Sunna, à revenir aux explications des gens de science et à ne jamais parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Mais toutes ces conséquences, aussi graves soient-elles, conduisent finalement à une réalité plus profonde encore. Car lorsque la langue arabe s'affaiblit, ce n'est pas seulement la compréhension des textes qui diminue, c'est le lien même qui unit le croyant au livre de son Seigneur qui s'affaiblissent progressivement. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité comme nous l'avons dit. Même si sa récitation est une immense adoration. Mais il faut qu'il soit médité. Comment le méditer si nous n'avons pas la maîtrise des significations qu'il renferme? Il ne s'agit pas d'acquérir un savoir pour être reconnu. Il ne s'agit pas davantage de devenir spécialiste de la grammaire ou de rivaliser d'éloquence avec les autres. L'objectif est bien plus noble. Apprendre la langue arabe, c'est chercher à mieux comprendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, à suivre plus fidèlement la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, à adorer son Seigneur avec davantage de science et de clairvoyance, à participer à la préservation de cette noble religion. C'est pour cette raison que les premières générations considéraient l'étude de cette langue comme une œuvre d'adoration lorsqu'elle était entreprise avec une intention sincère. À leurs yeux, elle n'était pas une finalité, mais un moyen privilégié de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plus le croyant goûte au Coran, plus sa foi augmente. Et plus sa foi augmente, plus son attachement au Coran grandit. Voilà pourquoi apprendre la langue arabe dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé son livre n'est pas un simple enrichissement intellectuel. C'est une voie qui conduit à une meilleure connaissance d'Allah Azza wa Jal, à une méditation plus profonde de sa parole et à une adoration plus éclairée. Après avoir rappelé les mérites de la langue arabe et identifié les dangers qui la menacent et mesuré les conséquences de son abandon, il nous reste maintenant une dernière question à laquelle chacun d'entre nous doit répondre. Que devons-nous faire pour que ce fléau cesse ? La première étape consiste à corriger notre intention. Le musulman n'apprend pas la langue arabe pour être considéré comme un érudit, ni pour impressionner les gens par son éloquence, ni pour remporter des débats. Il l'apprend parce qu'il souhaite mieux comprendre la parole de son Seigneur et suivre plus fidèlement la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque science est une adoration lorsqu'elle est recherchée avec sincérité. Donc plus l'intention est pure, plus Allah tabaraka wa ta'ala accorde sa bénédiction dans l'apprentissage. Aussi, la deuxième étape consiste à commencer sans attendre. De ne pas dire « je n'ai pas les moyens, je ne sais pas comment faire ». Beaucoup repoussent l'étude de la langue arabe en pensant qu'ils commenceront lorsqu'ils auront davantage de temps, lorsqu'ils seront à la retraite ou lorsque leur situation sera plus favorable. Certains n'apprennent pas la langue arabe parce qu'ils n'ont pas la capacité ou la possibilité de se rendre en Égypte. Qui t'a dit que tu pourrais y aller un jour ? Justement, ce moment n'arrive bien souvent jamais. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre et il ne faut pas repousser. La science, elle ne s'acquiert pas en un seul jour. Elle est le fruit d'un effort régulier, poursuivi avec patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal » Les œuvres les plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala sont celles qui sont accomplies avec constance, même si elles sont minimes. Ce principe doit accompagner tout étudiant en sciences, tout musulman. Quelques minutes consacrées chaque jour à l'apprentissage de la langue arabe valent mieux qu'un enthousiasme passager qui s'éteint après quelques semaines. Celui qui avance avec régularité finira par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala par atteindre un niveau qu'il n'aura jamais imaginé. Aussi, la troisième étape consiste à emprunter le bon chemin. Étant donné que la langue arabe est une science, et comme toute science, elle possède des fondements, une progression et une méthode. Et cette méthode n'est pas la même pour tous. Celui qui veut apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran et la Sunna n'a pas à suivre le même parcours que celui qui veut se spécialiser dans les sciences religieuses. Mais en revanche, il y a des points communs. Il faut apprendre auprès d'un enseignant fiable et compétent. Les pieux prédécesseurs apprenaient auprès des gens de science. Et cela ne veut pas dire, bien évidemment, quand on parle de la compagnie d'un enseignant, qu'il faut oublier l'immense faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à qui il veut. Ce n'est pas parce que maintenant tu es dans un institut sérieux, auprès d'un enseignant sérieux, fiable, compétent, que tu pourras acquérir cette science. Donc il se peut qu'à une période donnée de ta vie, Allah tabaraka wa ta'ala ne t'ouvre pas cette science. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah tabaraka wa ta'ala, il accorde ses grâces à qui il veut et quand il veut. S'il ne te l'accorde pas, repens-toi, révise ton intention, tourne-toi vers une autre science en attendant. Peut-être que cette science, ce n'est pas de multiplier les efforts qui va te permettre de l'acquérir, mais peut-être de revenir sur celle-ci plus tard. Jamais dans l'histoire des communautés, les moyens d'apprendre n'ont été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et pourtant, on voit que malheureusement, l'attachement à l'apprentissage est faible lorsqu'on le compare avec les premières générations. Les imams marchaient des kilomètres, des jours, des semaines, des mois, des années pour aller apprendre un seul hadith. Aujourd'hui, on ne fournit que quelques efforts et on veut apprendre directement cette science. Voilà pourquoi il est important aussi de se remettre en question et de ne jamais oublier que l'acquisition est une faveur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran, il est accessible dans chaque foyer. Tout le monde peut se munir d'un Coran. Les ouvrages des savants, pareil, sont largement diffusés. On peut même les trouver en PDF sur Internet. Les cours sont disponibles dans de nombreuses langues. Les instituts ne se sont jamais autant multipliés qu'aujourd'hui en Égypte et ailleurs. Et il est désormais possible d'étudier, même lorsque l'on vit loin des pays musulmans, à distance. Si les générations qui nous ont précédés ont parcouru des centaines de kilomètres pour entendre un seul hadith, que répondrons-nous à Allah tabaraka wa ta'ala si nous négligeons une science devenue si facilement accessible? Voilà pourquoi, ikhwatil kiram, il ne faut pas sous-estimer les petits efforts accomplis avec sincérité. Il faut commencer par quelques mots, quelques règles, quelques versets compris dans leur langue d'origine. Avec le temps, ces efforts s'accumuleront. Et nous découvrirons que le Coran s'ouvre à nous d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Car celui qui emprunte le chemin de la science avec sincérité, en recherchant la face d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilite le chemin vers le bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Cela suffit pour que tu fasses des efforts, même si tu n'en trouves pas les résultats ici-bas, parce que tu trouveras les résultats dans l'au-delà, au paradis. Voilà pourquoi, au terme de cette conférence qui s'est déroulée sur deux interventions, nous devons retenir une chose essentielle. La langue arabe n'est pas une langue comme les autres. Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisie pour révéler son dernier livre, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau de la prophétie, qu'il a employé pour transmettre la dernière législation qui est destinée à l'humanité entière. C'est pourquoi les gens de science de cette communauté lui ont toujours accordé une place particulière. Non par attachement à un peuple ou à une origine, comme nous l'avons dit, mais parce qu'ils savaient qu'elle est l'une des plus grandes clés de la compréhension de la révélation. La langue arabe n'appartient donc pas aux seuls arabes. Elle appartient à tous les musulmans. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire, combien de grands imams n'étaient pas arabes de naissance. Pourtant, cela ne les a jamais empêchés de consacrer leur vie à son apprentissage jusqu'à devenir des références pour les générations suivantes. Et l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cet homme, né dans une famille d'origine étrangère et qui est devenu un savant incontournable, une référence, que dire alors des autres imams? Ils avaient compris que la véritable noblesse ne réside ni dans la langue elle-même, ni dans celui qui la parle, mais dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi pour porter sa parole. Ils ne cherchaient pas à devenir des références pour les générations suivantes. Ils cherchaient à l'apprendre pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ne pensons jamais qu'il est trop tard pour commencer. Ne pensons jamais que cette science est réservée à une élite. Ne pensons jamais que quelques minutes d'études sont insignifiantes. Chaque mot appris est une porte qui s'ouvre sur la compréhension du Coran. Chaque règle maîtrisée est une lumière supplémentaire dans la compréhension de la sunna. Et chaque effort accompli avec sincérité est une œuvre dont la récompense est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont les bienfaits sont innombrables. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karami bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana 'ilman wa tawfiqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.